France Info.
C'est qu'il y a pas mal d'averses quand même qui resteront en place.
Pas sorti de l'auberge.
Alors que le sud bénéficiera d'une belle accalmie et puis ce week-end sera beaucoup plus calme avant l'arrivée des pluies dès lundi. Donc on espère quand même que ce week-end on verra un peu de soleil. Merci. En tout cas, c'est en prévision.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va suivre ça avec vous. Christine Peignan, on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour de nouvelles prévisions à météo et tout au long de cette matinale qui commence, car il est 5h sur France Info. Et à la une de ce 5 février, 55 000 morts. C'est le nombre de soldats ukrainiens qui ont été tués depuis le début de la guerre. C'est le bilan officiel donné par le président Zelensky, interviewé hier soir sur France 2, alors que des pourparlers reprennent aujourd'hui entre Ukrainiens et Russes. À la une aussi, une info France Info. Nous vous révélerons le contenu d'une lettre envoyée par le couple Moretti aux salariés de leur bar de Cran Montana. Ils risquent de manquer plus de 350 000 places d'EHPAD d'ici 25 ans pour faire face au vieillissement de la population française. Et puis les JO qui ont bien commencé en avant-première en Italie, retour sur les toutes premières épreuves. De nouveau pour parler, donc, vont avoir lieu aujourd'hui entre des représentants de Kiev et de Moscou à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Tout cela en présence des médiateurs américains pour tenter de mettre fin à la guerre. Mais pour l'heure, le président Zelensky n'est donc pas très optimiste. Il était l'invité du 20h de France 2 hier soir. Il appelle d'ailleurs les Américains à accentuer la pression sur Moscou, Isabelle Labéry, pour espérer enfin aboutir à cette paix.
Dans la pénombre de l'un des bureaux de la présidence, le visage marqué par 4 ans de guerre, Volodymyr Zelensky esquisse la voie de la paix. Pas de capitulation face aux Russes, mais des concessions.
Soyons honnêtes. Si on gèle la ligne de front et qu'on garde nos positions respectives, c'est déjà une concession énorme de notre part.
Malheureusement, 4 ans n'ont pas suffi, dit le président ukrainien, pour que nos partenaires prennent la mesure de cette agression.
Mais aujourd'hui, il est très clair que si l'Ukraine n'arrête pas Poutine, il va envahir l'Europe. La portée de leurs missiles est illimitée. Ils frapperont partout. Je ne veux faire peur à personne. Mais les pays qui ne se rendent pas compte que cette tragédie est en train de se produire disent que leur priorité reste leurs affaires intérieures. Ils ne veulent tout simplement pas se rendre compte de tous les risques qui existent aujourd'hui.
Vladimir Poutine n'a peur que de Donald Trump, ajoute Volodymyr Zelensky. Plutôt que de l'écouter, le président américain devrait donc savoir qu'il n'a qu'une chose à faire, augmenter la pression économique et militaire sur Moscou.
Isabelle Labéry, pour la première fois, ils s'adressent à leurs employés, les Moretti, ce couple de gérants du bar de la station suisse de Cran Montana, où 41 personnes sont mortes dans un terrible incendie le soir du réveillon du Nouvel An. 115 personnes ont aussi été blessées. Jacques et Jessica Moretti s'expriment ensemble dans une lettre adressée à leurs employés. Donc, que France Info vous révèle, vous avez pu la lire en intégralité. Aurélien Tirard, vous êtes l'envoyé spécial de France Info en Suisse. Et cette lettre est destinée à exprimer leur compassion et à se justifier.
Oui, cette lettre de 2 pages, signée Jessica et Jacques, commence par ces mots. Nous nous devons d'apaiser votre douleur, de suspendre le silence qui nous a été imposé, un silence contraint, selon eux, à cause de l'enquête qui les a conduits à retenir, je cite, les mots de profonde empathie à l'égard de leurs chers employés. Dans cette lettre, il y a aussi des mots d'apaisement, car patrons et salariés se renvoient la responsabilité depuis plusieurs jours. Des employés qui n'auraient pas respecté les consignes d'évacuation, selon Jacques Moretti. En réponse, certains affirment que les gérants n'ont rien fait pour assurer la sécurité du Constellation. Alors, dans le courrier, le couple l'écrit noir sur blanc. Nous portons cette responsabilité sans chercher d'aucune façon à nous déporter sur vous. Vous étiez nos protégés et vous l'êtes toujours, assurent les Moretti. Enfin, les gérants du bar se justifient. Si les salaires des employés n'ont toujours pas été versés, c'est parce que leurs comptes sont bloqués. Ils demandent à la justice suisse de faire le nécessaire.
Information France Info a signé Aurélien Tirard du service police-justice. En attendant, le couple donc sera entendu à nouveau la semaine prochaine par la justice. Des appels au départ de Jack Lang, de la tête de l'Institut du Monde Arabe, après la citation à plus de 600 reprises du nom de l'ex-ministre de la Culture dans les nouveaux documents révélés par la justice américaine sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Jack Lang nie à nouveau avoir eu connaissance des agissements du financier. Il exclut de démissionner, mais son prédécesseur à l'Institut, Renaud Muselier, désormais président de de la région PACA appelle à son départ dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, mais aussi des figures du Parti Socialiste comme Ségolène Royal ou l'ancien premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Plus de 7 tonnes de protoxyde d'azote ont été saisies par la police de Narbonne dans l'Aude. Dans un camion qui manœuvrait dans le centre-ville, le conducteur a été placé en garde à vue. Le protoxyde, c'est ce gaz utilisé en médecine et en cuisine, mais qui est détourné pour un usage récréatif, surnommé gaz hilarant, avec des conséquences parfois graves pour la santé et qui a causé aussi des accidents de la route mortels ces derniers mois. La Confédération paysanne n'ira pas à l'inauguration du Salon de l'agriculture dans 2 semaines à Paris. Traditionnellement, les principaux syndicats agricoles sont aux côtés du président de la République pour couper le ruban, ouvrir le salon au public. Mais cette fois, la 3e organisation agricole du pays a décidé d'un boycott. Édouard Marguiel reproche au chef de l'État la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse dans les élevages bovins et l'abattage de troupeaux entiers, maladie à l'origine de l'absence de vaches cette année au salon, une première.
Ils n'ont pas apprécié l'appel du président aux éleveurs, vu la situation sanitaire qui s'améliore. Emmanuel Macron leur demande de revenir sur leur décision de ne pas présenter de vaches au salon de l'agriculture.
Clairement, Emmanuel Macron cherche à sauver les meubles.
Thomas Gibert est l'un des porte-parole de la Confédération paysanne. Même s'il n'y a aucun nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse depuis un mois, il réclame toujours la fin de la politique sanitaire du gouvernement.
On n'a rien sur la fin de l'abattage total, alors qu'on craint une recrudescence de la crise à partir du printemps. On n'a pas envie de participer au show présidentiel.
La Confédération paysanne boycottera donc l'inauguration du salon et le traditionnel petit déjeuner présidentiel. Mais le syndicat sera présent sur son stand et promet des manifestations.
Nous ferons des actions pour mettre en avant les problématiques du monde paysan, pour que aussi il y ait des solutions qui répondent à l'ensemble du monde agricole et non pas à une poignée, comme en a pour habitude le ministère et l'ensemble du gouvernement.
Il dénonce en effet le projet de loi d'urgence agricole annoncé par Sébastien Lecornu pour répondre à la crise. Un texte qui revient sur des normes coécrit avec la FNSEA, selon la Confédération paysanne.
Édouard Marguier, spécialiste agriculture de la rédaction de France Info. Les Français risquent de manquer cruellement de places en EHPAD à l'avenir. C'est une alerte de l'ADRES, le service statistique du ministère de la Santé, face à notre population qui vieillit. Si les prochains gouvernements ne se saisissent pas du sujet, selon l'ADRES, il va devenir impossible de gérer ce virage démographique. Il va donc falloir créer d'ici 25 ans des centaines de milliers de places en EHPAD. Solène Lehen est embauchée massivement dans le secteur du grand âge.
Dans cette projection, l'ADRES estime que dans 25 ans, il y aura en France 23 millions de personnes de plus de 60 ans, soit plusieurs millions de plus qu'aujourd'hui, et surtout 750 000 de plus qu'aujourd'hui qui ne seront plus autonomes. En conséquence, si d'ici là, on conserve le modèle actuel des EHPAD, il faudrait créer 365 000 places de résidents supplémentaires. Or, disent les spécialistes, ce n'est pas la tendance. Le nombre de places en EHPAD a légèrement diminué ces dernières années. Autre conséquence de ce vieillissement de la population, dit cette étude. D'ici 25 ans, il faudra embaucher dans le secteur des EHPAD et de l'aide à domicile entre 150 et 200 000 personnes supplémentaires. En 2022, pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis 50 000 embauches dans les EHPAD pendant ce quinquennat. 4 ans plus tard, on est à moins de la moitié.
Solène Lehen du service Sciences, Santé, Environnement de France Info. La Coupe de France de football, Nice, Lyon, Lorient, Toulouse et Lens se sont qualifiés hier soir pour les quarts de finale. Finale de la compétition, dernier match aujourd'hui pour compléter l'affiche des quarts. Strasbourg-Monaco, c'est à 21h. On suivra ça sur France Info, tout comme les Jeux Olympiques d'hiver. La flamme olympique arrive aujourd'hui à Milan, à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux en Italie. Mais les épreuves, nous vous en parlions, eh bien, elles ont déjà commencé hier, sous la neige, avec par exemple les phases préliminaires de curling en double mixte avant-goût. Nicolas Perronnet dans la très chic station de Cortina d'Ampezzo.
Ryan n'en rate pas une miette et pourtant ce lycéen de Venise le reconnaît, le curling, ce n'est pas vraiment son truc.
On est ici seulement pour regarder, je ne sais pas rien de rien de rien.
Les 25e Jeux d'hiver ont donc débuté hier soir en toute confidentialité, mais ce qui compte avant tout pour les premiers spectateurs comme Marvin, c'est l'esprit olympique.
Quand on arrive ici et qu'on voit tous ces drapeaux, tous ces gens, c'est une très belle ambiance. Vraiment, j'aime beaucoup.
On voit aussi beaucoup de neige, un peu trop d'ailleurs, et cela ne facilite pas l'entrée en matière. Le premier entraînement de la descente prévu aujourd'hui sur la piste de ski alpin a été annulé. La skieuse de Risoul, Camille Cerruti, regarde donc tomber les flocons, mais sent bien que l'ambiance dans la station n'est pas tout à fait la même que d'ordinaire ici en Coupe du Monde.
Ça fait bizarre en tout cas de se balader avec la tenue olympique. Ça nous donne un peu plus d'importance, les gens nous regardent plus. En tout cas, je sais que déjà de base, sans les JO, c'est une très belle piste, donc ça peut que être sublimé avec les anneaux olympiques au-dessus.
La perle des Dolomites est doucement entrée dans ces Jeux en attendant la cérémonie d'ouverture demain soir.
Que l'on suivra avec toute l'équipe de France Info pour ces Jeux d'hiver dont vous faites partie. Merci beaucoup Nicolas Perronnet. 5h10 lors de votre météo, ma chère Christine Peña, avec pas d'évolution, hein, le temps reste perturbé.
Bah oui, l'abondance de nuages, n'en jetez plus, hein, on en a assez, mais bah, y en a encore qui arrivent. Avec encore pas mal de pluie, surtout à l'ouest ce matin et dans le sud cet après-midi en Méditerranée. Les Alpes, les Pyrénées vont de nouveau être bien chargées de neige. Alors les Pyrénées ce matin et les Alpes, ça sera pour ce soir. Paris sera de nouveau arrosé en fin d'après-midi et la nuit prochaine. Et cette ambiance pluvieuse va quand même progressivement faire une petite pause pour ce week-end. Sympa, non ?
Oui, c'est
avant
sympa,
le retour
oui.
De plus belle, de la pluie et du vent lundi.
Oui, c'est un cadeau qui ne va pas durer.
Non, ça ne va pas durer.
Très bien, merci beaucoup Christine Peña. Rendez-vous avec vous juste avant 5h30 pour de nouvelles prévisions. Il est 5h10.
Municipal 2026, France Info en campagne. Quelle place pour la jeunesse dans nos communes?
Journée spéciale sur France Info. Quel avenir pour les jeunes en milieu rural?
Comment penser la ville pour les ados?
Quelles pistes pour améliorer l'accueil et les activités des centres de loisirs?
Toute la journée, invités et reportages.
Municipal 2026, France Info en campagne.
Quelle place pour la jeunesse dans nos communes?
Journée spéciale sur France Info.
Au programme des prochaines minutes, des chercheurs français qui ont trouvé un moyen pour déchiffrer ce qui se passait dans le cerveau de nos ancêtres il y a 450 000 ans, plongés dans le cerveau des Néandertals qui arrivent. Revenons d'abord à 5h11 sur ce drame à Sanary-sur-Mer où le profil de l'adolescent qui a poignardé son enseignante se précise.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Cette affaire, l'enseignante est toujours hospitalisée. Son pronostic vital est engagé pour 5 jours, selon sa famille, dans un communiqué adressé à Varmatin. Et lui, l'adolescent, est attendu au palais de justice de Toulon aujourd'hui. Bonjour Antoine Liffaut.
Bonjour.
Service police-justice de France Info. Alors que faut-il attendre de ce rendez-vous au palais de justice ?
Alors, si l'heure exacte n'est pas communiquée, il va être présenté à un juge d'instruction à huis clos qui va lui signifier sa mise en examen et là va se poser la question de l'incarcération de cet adolescent. Parce que si le parquet la demande, différentes solutions vont d'abord être étudiées. Est-il possible, par exemple, de le placer dans un foyer spécialisé ou pas? Et si la décision est prise de l'envoyer en détention provisoire, alors ce ne sera que pour 1 an maximum au regard de son jeune âge, le temps de ce que l'on appelle l'instruction. Autrement dit, la justice va se pencher pendant ce temps-là sur les raisons de son passage à l'acte dans sa vie, dans son entourage familial complexe. Son père est suspecté d'avoir été violent avec lui. Il y a eu un premier signalement en septembre et depuis, l'adolescent a été suivi par les services sociaux. À l'issue de cette instruction, son procès pourra avoir lieu dans 1 an donc, procès pour lequel il risque 20 ans de réclusion criminelle.
Alors il est en garde à vue depuis mardi, cet adolescent, et il a détaillé les raisons qui l'ont poussé à s'en prendre à sa professeure. Il dit l'avoir prémédité parce qu'il l'a haïssé.
Cette haine, il l'a confiée aux enquêteurs pendant sa garde à vue. Une haine attisée par les tensions, dit-il, avec cette professeure d'art plastique de 60 ans qui le reprenait sur son comportement à travers de mauvais rapports qu'il trouvait injustes et qui l'ont conduit, selon lui, à fomenter une attaque dont il parle à ses camarades. Il projette une première fois de s'en prendre à l'enseignante la semaine passée, mais fait marche arrière avant de saisir avant-hier un couteau dans la cuisine de ses parents avec lequel il portera 4 coups en pleine salle de classe à sa professeure. Après des perquisitions, aucun lien avec la religion ou la politique n'a pu être établi selon le procureur de la République de Toulon, qui précise toutefois qu'une collection de couteaux a été découverte dans les affaires de l'adolescent.
Merci beaucoup pour ces précisions, Antoine Liffaut, en direct de Sanary pour France Info. Une question qui se pose à nouveau après ce drame, comment mieux prévenir les actes de violence dans les établissements scolaires, mieux détecter le mal-être chez les jeunes? Dans certains collèges, on trouve désormais un médiateur ou une médiatrice qui est aux côtés de l'équipe éducative et qui peut avoir une vraie efficacité. C'est le métier d'Océane Flagel au collège Roland-Garros à Saint-Germain-les-Arpajons en Essonne, à 1 trentaine de kilomètres de Paris. Alors là, ni prof, ni psy, ni assistante d'éducation, c'est juste une adulte de plus à qui s'adresser. Julie-Marie Lecomte, vous avez partagé un peu de son quotidien.
Au collège, tout le monde l'appelle par son prénom, même les élèves.
À sa tête, genre, tu vois déjà en fait qu'elle est gentille, elle est aimable, attentionnée.
Pour moi, en tout cas, ma vision de Océane, c'est une personne qui vient vers nous quand on va mal et qui nous parle et qui nous aide à aller de mieux en mieux et à mieux traiter notre problème.
J'ai même pas non plus payé encore dans le sac, elle m'a dit tu sors en dernière.
Mais elle voulait peut-être te parler.
25 ans, longs cheveux blonds, grandes lunettes, sourire tout terrain ou presque. Océane est partout, le matin à l'entrée, plus tard en train de faire un tour dans les couloirs et dans la cour pendant la récré.
C'est les règles de sa classe, je peux pas. Oh, j'ai pas.
Bah, si tu veux aller à son
école. Bah oui, tu vas y retourner.
Non, je peux pas me l'avoir.
La médiatrice peut aussi intervenir dans des conflits entre élèves et enseignants.
C'est déjà arrivé lorsqu'il y a un élève qui demande, qui sait qu'il est à une situation où il était peut-être en tort, pour s'excuser, il demande une médiation au prof-élève. C'est déjà arrivé.
Bien. Il a été placé stratégiquement ce bureau parce qu'on est en fait dans la cour. On a vu sur la cour, la première cour, et également sur le renfoncement. Pour la confidentialité, on a placé des glaces, on va dire, sans teint, pour que je puisse voir ce qui se passe à l'extérieur, mais qu'eux ne puissent pas me voir. En tout cas, pour que ce soit confidentiel et qu'ils ne voient pas les élèves qui sont dans mon bureau lors des entretiens. C'est important pour eux d'avoir une porte d'entrée où ils peuvent parler librement, en fait, sans être jugés, sans avoir peur de sanctions. Quand je remonte dans mon enfance et dans mes années de collège, je me dis que c'est vrai que pour moi, ça manquait peut-être d'un médiateur dans l'établissement.
Ça fonctionne, leur parler ?
Oui. Oui, en fait, je pense que les élèves, ils sont en recherche de contact avec l'adulte. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne reçois pas des élèves qui se sont insultés, donc c'est autant bien la violence verbale que la violence physique.
Et souvent, derrière la violence, Océane détecte la souffrance.
Quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des choses bien plus profondes. Ça m'est déjà arrivé lors d'entretiens, pour une situation, on va dire, banale, d'arriver à creuser avec l'élève et de se rendre compte que, par exemple, il y a déjà eu un viol dans l'enfance, des attouchements, ça m'est déjà arrivé.
En début de journée, la conseillère principale d'éducation fait le point sur les derniers incidents.
Alors, du coup, il y a trois situations à voir aujourd'hui. Donc, dans les urgences, on va dire, on commence par celle-là. Il se cherche constamment. Il dit souvent « ferme ta gueule », des propos racistes et des menaces, a priori.
Ok, ça marche pas, merci.
Océane va convoquer les élèves, leur parler individuellement, puis les amener à discuter.
J'ai senti vraiment une différence, moi, sur mon travail au quotidien. Parce que les petits conflits, s'ils sont pas résolus, ça finit par devenir des gros conflits, voire voilà, des bagarres ou des choses comme ça. Et du coup, ça permet d'en éviter, c'est certain.
Et les gars, il y a trop de C'est quoi le sujet, madame?
La médiation.
Ah, mais j'adore la médiation.
Vas-y, je t'ai déjà reçu.
C'est super, la médiation, franchement.
On peut être soulagé de parler à quelqu'un si on n'a personne à la maison ou on n'a pas d'amis.
Si on n'ose pas en parler à nos parents, à des amis ou quoi, on peut aller voir Océane et on sait qu'on va être écouté et pas être jugé.
Je pense que sans elle, il y a beaucoup plus de choses qui se seraient passées, on va dire. Parce qu'elle est vraiment là pour désamorcer les situations, pour, on va dire, changer le cours d'une... Une confrontation, grâce à elle, ça peut passer de « on se tape dessus » à « on va essayer de régler ça cordialement en parlant ». Et je trouve que c'est ça vraiment qui est incroyable avec elle. On sent que quand elle est là, il y a vraiment un climat de gentillesse qui s'installe dans la salle de classe ou dans le collège en général, qui est vraiment très apaisant et qui fait plaisir à, on va dire, à ressentir.
Mais elle est là que 2 jours par semaine.
Ces 2 jours, c'est 2 jours de pur plaisir et de pure joie.
C'est l'ombre au tableau, un emploi précaire financé dans le cadre d'une expérimentation par le département. Océane doit se couper en deux, présente à mi-temps seulement dans 2 collèges différents.
France Info, reportage à Saint-Germain-les-Arpajons au collège Roland-Garros, signé Julie-Marie Lecomte. Restez avec nous sur France Info dans un instant. Après un nouveau tour complet de l'actualité, nous allons nous plonger passionnante dans le cerveau de notre ancêtre Néandertal. Et en plus, c'est une découverte française que l'on met en valeur.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À presque 5h20 sur France Info, c'est l'heure de l'info. En une minute et à la une, la Maison Blanche qui confirme des discussions avec l'Iran.
Des discussions qui doivent se tenir demain à Oman. Les deux pays doivent aborder la question du nucléaire iranien. Donald Trump a une nouvelle fois menacé le régime. L'ayatollah Khamenei devrait se faire beaucoup de soucis, assure le président américain, qui a menacé à plusieurs reprises d'intervenir militairement dans le pays. Des appels à la démission dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. L'ancienne l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal. L'ex-premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, demande à Jack Lang de quitter son poste à la direction de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Son prédécesseur, Renaud Muselier, aussi. Jack Lang est mis en cause pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Un chauffeur biélorusse de poids lourd est en garde à vue dans l'Aude. Il transportait plus de 7 tonnes de protoxyde d'azote, un gaz utilisé en médecine et en cuisine, mais qui est détourné et utilisé comme de la drogue. 5 nouvelles équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France de foot. Toulouse, Lyon, Lorient, Nice et Lens, que des clubs de Ligue 1. Et ce soir, ce sont encore des équipes du championnat de l'élite qui s'affrontent. Strasbourg sera face à Monaco.
France Info. Qu'est-ce qui se cachait dans la tête de nos ancêtres, les Néandertals, nos aïeux, il y a 450 000 ans? Eh bien, des chercheurs français ont trouvé le moyen de déchiffrer tout cela. Bonjour Anne-Laure Danier.
Bonjour.
Service Sciences de France Info. Alors, une équipe du CNRS, du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Université de Perpignan a mis au point une cartographie du crâne où l'on voit les marques laissées par le cerveau. Leur étude vient d'être publiée. C'est une découverte très importante.
Oui, ils comparent carrément leur trouvaille à la découverte de la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. C'est vrai que c'était un sacré défi. Pour comprendre le fonctionnement du cerveau des hommes préhistoriques, ils n'ont sous la main que des fossiles de crâne. La cervelle a disparu depuis longtemps. Alors pour décrypter les traces observées à l'intérieur de ces fossiles de crâne, les chercheurs ont passé au crible, grâce à des IRM, les têtes de 75 volontaires, bien vivants ceux-là. Ça leur a permis de faire la différence entre les marques laissées par les lobes du cerveau, les différentes zones cérébrales, et d'autres traces qui n'ont aucun rapport. Antoine Balzo est paléo-anthropologue au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle. Il nous explique l'enjeu de cette étude.
Le cerveau, c'est facile à lire, c'est bien documenté. L'intérieur du crâne, il y a des marques, mais on ne connaissait pas la correspondance exacte parce qu'on n'avait jamais pu l'étudier directement. Le problème jusque-là, c'est qu'on n'avait pas de clé de lecture. Donc là, vraiment, cet objectif, c'était d'être capable d'observer directement le lien entre la forme du cerveau et tous ses sillons et les marques qu'on voit sur la surface interne du crâne qui reflètent en partie le cerveau. Maintenant, on a des éléments solides, robustes pour essayer, par exemple, de reconstituer la forme du cerveau des Néandertaliens.
Ils ont donc établi une carte en 3 dimensions et en couleur des marques laissées par les différentes parties du cerveau à l'intérieur du crâne.
Et cette carte, elle leur permettra d'en savoir plus sur nos ancêtres ?
C'est tout l'enjeu de ces recherches.
L'enjeu à plus long terme, c'est d'être capable de voir les variations anatomiques au cours de l'évolution humaine et de repérer quand se mettent en place les particularités du cerveau qui correspondent chez nous au langage, à la latéralité manuelle, à l'usage des mains, pour comprendre quand et comment ces capacités sont mises en place au cours de l'évolution humaine. De reconnaître si un néandertalien en particulier était droitier ou gaucher et si les zones qui correspondent aux zones du langage étaient présentes et ressemblaient ou pas aux nôtres.
Et pour découvrir quand et comment nos lointains ancêtres ont manié le langage, une nouvelle étude va être lancée le mois prochain.
Passionnante découverte. Merci beaucoup Anne-Laure Danier, service sciences, santé et environnement de France Info. C'est l'heure du monde d'Élodie à 5h23. Avec ce matin, une dessinatrice de presse au micro d'Élodie Suigo.
Bonjour Coco.
Bonjour.
Quand on vous présente, souvent on associe à votre métier de dessinatrice de presse et de bande dessinée le terme de survivante. Vous qui avez effectivement survécu au massacre du 7 janvier 2015, vous avez été prise en otage par les frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. Ce jour-là, nous avons perdu les dessinateurs Charb, Cabu, Honoré, Tinius et Volinsky. Si on s'arrête déjà sur ces deux mots et avec le recul, on est saisi par le fait que cette association est indigeste, douloureuse, incompréhensible. Nous sommes donc en 2026, 11 ans plus tard, dans une démocratie où oui, dessiner librement, caricaturer peut donc susciter la haine au point d'être tué. Vous avez publié un livre, devenu une BD, aujourd'hui une pièce de théâtre, qui se joue depuis le 31 janvier au Théâtre Le Pic à Paris. Dès la première page de votre ouvrage, Dessiné encore, on découvre un dessin qui nous interpelle. Il s'agit de deux fantômes qui ont les yeux grands ouverts et qui laissent échapper une femme. On comprend que c'est vous, avec comme sous-titre « Des fois ça va, des fois ça me submerge et ça m'emporte ». Dessiner, c'est votre façon de vivre, d'avancer du coup ?
Dessiner, c'est mon métier, c'est ma passion, et c'est vrai qu'après l'attentat, c'était ce à quoi je me suis accrochée fermement. pour pouvoir continuer à vivre, oui, exactement.
Vous portez un cœur à l'oreille, c'est une grosse signification ça quand même. C'est-à-dire que c'est une ode à la vie, cet ouvrage aussi d'abord.
Ce qui est l'ode à la vie, c'est de continuer à faire ce métier. Dans le fait de continuer après l'attentat du 7 janvier 2015, le plus important c'était d'apporter une réponse politique et le plus important c'était de pouvoir dire qu'après ça, on continue à faire le travail et que les terroristes islamistes n'ont pas gagné et n'ont pas pris ce journal qui nous tient, qui nous passionne et dans lequel on est bien.
Je voudrais savoir à quel moment vous tombez amoureuse du dessin, Coco.
Ça arrive tôt puisque j'ai grandi dans une fratrie. On avait peu d'écart d'âge. J'ai un frère jumeau et j'ai un frère qui a 13 mois de moins. C'est vrai que mes frères jouant pas mal ensemble, rapidement, le dessin, ça a été un terrain dans lequel je me suis sentie bien, une forme de bulle, une forme de moment à moi, un truc, un espace où j'étais moi et la feuille et je pouvais exprimer un peu mes pensées, mon imagination. Et après, voilà, au collège, au lycée, au collège en particulier, c'est vrai où on commence à faire un peu des caricatures de profs et on voit que ça prend, on voit le rire que ça suscite chez les copains, les copines, on continue. J'ai un oncle qui faisait de la BD, comme je suis de Haute-Savoie, il faisait de la BD pour la source cachée à Dévian. Et voilà, il était d'inspiration de Gottlieb, Rezer, Edika, tous ces gens fabuleux. Entre la BD et la presse, quoi, du dessin à la plume, Franquin, bien sûr, Gaston, les idées noires, puis Cabu, qui est vraiment quelqu'un qui a compté, tout son compté, mais Cabu, c'est vraiment quelqu'un qui faisait référence pour tout le monde en termes de caricature, de dessin, d'esprit, son rire. Le rire de Cabu était quelque chose de suffisamment solaire pour tous nous regrouper et nous donner envie de faire rire Cabu.
Vous parlez des questions que vous posez et des si, de la présence des si dans votre vie. Est-ce qu'on arrive à les dompter, ces si?
Oui, dans Dessiner encore, j'ai évoqué ce moment où cette culpabilité du survivant me prend à la gorge, c'est-à-dire que pendant des années, je me suis sentie coupable de ce qui était arrivé. Ça m'a pris du temps d'accepter le fait que je n'aurais pu rien faire face à deux kalachnikovs pointés sur moi et des terroristes islamistes déterminés à tuer et préparés. Quand ça nous arrive, on est dans un état de sidération tel que ça vous saisit et vous êtes complètement glacé, quoi. Vous êtes saisi d'effroi. L'effroi dans tout ça était tel que c'était dur de se relever.
Comment vous avez travaillé sur cette adaptation au théâtre Le Pic, de voir votre ouvrage devenir une pièce de théâtre, Coco?
Il y a trois comédiennes qui sont ma voix dans le livre et qui m'incarnent plus ou moins avec des facettes. L'une un peu plus combative, l'autre un peu plus dans l'introspection, l'une un peu plus rigolote. Il y a plusieurs caractères, on va se dire, qui se dessinent de ce personnage qui est moi, mais je préfère dire personnage. Dans le livre, j'ai dessiné ce petit bonhomme qui me représente pour mettre une mise à distance. Donc là, c'est vrai que ça fait vraiment très bizarre.
Moi, j'ai juste une question pour terminer, Coco. Comment vous arrivez à vous projeter justement dans l'avenir et à mettre en pause un certain nombre de choses qui vous habitent et qui vous traversent pour vous octroyer le droit d'avoir du plaisir en tant que femme aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai pris le parti de vivre à fond tout le temps parce que je sais à quel point je suis en vie. Ça a été in extremis. Et c'est vrai que rien que le fait de savoir ça, le fait que ça puisse s'arrêter comme ça du jour au lendemain, ça vous change. C'est vrai que pendant des années, je me sentais pas légitime à vivre pleinement les choses là où d'autres pouvaient plus le faire, tout simplement parce qu'ils avaient été assassinés. Là, maintenant, je crois qu'il faut y aller à fond.
Merci Coco d'être passé par le monde d'Élodie sur France Info. Moi, je conseille vraiment de lire le livre, Dessiner encore, et en plus d'aller voir effectivement la pièce de théâtre. C'est au Théâtre Le Pic depuis le 31 janvier 2026. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à vous, Élodie Suigo. Le monde d'Élodie, c'est à retrouver sur franceinfo.fr. Il est 5h28, on jette un coup d'œil au ciel.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Et vous douchez nos espoirs de soleil. Ça. Christine Peña, vous les douchez avec de la pluie encore au programme.
Oui, le soleil, on oublie. Hein. Ah alors bah, si, il faudrait aller...
Ça ressemble à quoi?
Ça. Vous savez, la
entre
boule
nos
jaune.
Ah, mais ça ne dit rien.
Le ciel bleu, déjà, couleur bleue, on ne voit plus.
Je connais pas.
Alors si, le nord-est, hein, l'Alsace, sera certainement la région là où on aura un temps sec et plus lumineux qu'ailleurs. Sur le sud-est, région PACA ce matin, c'est pas mal. Mais cet après-midi, nous aurons ces pluies qui vont de nouveau nouveau redoublé d'intensité en Méditerranée entre le Languedoc-Roussillon, la région PACA, bon, pour cet après-midi, mais dès ce matin, le nord-ouest surtout sera copieusement arrosé et de nouveau la Bretagne d'ailleurs. Paris, on sera concerné à partir de 17-18 heures dans la soirée et puis la nuit prochaine également. Ce matin, on a quelques pluies, mais elles vont vite s'évacuer, comme au nord également. Elles s'évacuent en direction de la Manche et de la Belgique. Nous avons ce nouveau flux donc perturbé par l'ouest. Le sud-ouest sera concerné, mais avec des pluies intermittentes. Et puis, nous avons des températures. Le froid n'arrive toujours pas à s'imposer. Il reste en embuscade sur les régions les plus à l'est. Pour le coup, proche de l'Allemagne, où il fait particulièrement froid en ce moment, à cause de ce flux d'ouest perturbé qui véhicule en fait de l'air plus doux qui s'impose sur la France, eh bien, nous restons avec des températures qui sont proches des valeurs de saison, un petit peu au-dessus. Alors, il fait 0 à 2 degrés en Alsace, là, ce matin, contre 10 vers le Finistère, 12 sur l'île d'Oléron ou encore vers le bassin d'Arcachon. Et cet après-midi, on ira de 6 à Strasbourg à encore 17 de nouveau du côté du Pays Basque, à Biarritz. Il est prévu 13 à Paris, à La Rochelle, Bordeaux, Toulouse et Lyon.
Alors, il y fait pas bien chaud, mais j'ai l'impression que si je veux voir cette fameuse boule jaune là dont
oui,
vous nous parliez,
ça. Alsace,
faut que je prenne
Strasbourg.
Un petit TGV vers Strasbourg. Mmh. D'accord, très bien. Absolument. Merci beaucoup Christine Peña au programme de France Info. Pour nous emmener jusqu'à 6h, les pourparlers entre Russes et Ukrainiens en face à face qui reprennent aujourd'hui. Le président ukrainien appelle d'ailleurs les Américains médiateurs à accentuer la pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre. On va entendre Volodymyr Zelensky qui est interviewé hier soir par nos confrères de France 2. Quelle place pour les jeunes dans les municipales ? C'est une journée spéciale aujourd'hui sur France Info. Nous serons à Laval où les 12-25 ont une enveloppe de 200 000 euros chaque année et ce sont eux qui décident quoi en faire. Voilà ce qui vous attend dans la demi-heure qui arrive. Pour l'instant, il est 5h30 et c'est l'heure d'un nouveau journal.
France Info. William Guécostin.
Le pronostic vital de l'enseignante poignardée il y a 2 jours dans son collège de Sanary dans le Var est engagé pour 5 jours, annonce sa famille dans un communiqué adressé au journal Var Matin. L'adolescent, lui, qui a porté les coups de couteau en classe, doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une mise en examen. Il a expliqué aux enquêteurs lors de cette audition qu'il haïssait sa professeure. Après ce drame à Sanary, voilà un témoignage fort, c'est celui de Stéphane Voirin. Vous vous souvenez peut-être de ses pas de danse lors de des funérailles de sa compagne, Agnès Lassalle, une professeure d'espagnol, poignardée là aussi par un de ses élèves en plein cours. C'était à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, en 2023. Stéphane Voirin, il dénonce aujourd'hui l'inaction politique, selon lui, face à ces violences.
Il faudrait faire peur, il faudrait qu'il y ait des lois qui évoluent. Les lois, c'est nos politiques qui les font. La justice, l'exemplaire. Malheureusement, la justice, elle s'appuie sur des lois. Et pour moi, les lois ne sont pas approprié à ce qui nous arrive, c'est-à-dire ce qui nous arrive, ce n'est plus des ados, des jeunes qui mettent le feu dans les poubelles ou qui font des agressions mineures, c'est des jeunes qui tout simplement agressent d'autres jeunes ou leurs professeurs. Pour moi, la chose à faire, même si la sanction n'a jamais tout résolu, elle fait partie de la solution, mais elle ne résout pas tout, mais pour moi, ce serait déjà de mettre un coup d'arrêt assez conséquent en montrant que si vous agissez de la sorte, il doit y avoir une sanction ferme, définitive, certaine et conséquente.
Stéphane Voirin sur France Info. Il avait tenté d'assassiner Donald Trump en septembre 2024 sur le golfe du président américain en Floride. L'homme a été condamné à la prison à perpétuité, peine saluée par la ministre américaine de la Justice. C'est un moment grave pour la paix, s'inquiète le patron des Nations Unies, Antonio Guterres. Le traité de désarmement nucléaire en place entre les États-Unis et la Russie, le traité New Start, est arrivé aujourd'hui à expiration. Il limitait jusqu'à maintenant le nombre d'ogives que chaque pays peut détenir. Tout cela fait craindre une nouvelle course à l'armement nucléaire, évidemment. Qui va quitter le gouvernement ? Un remaniement doit avoir lieu la semaine prochaine à la tête de l'État. Plusieurs ministres doivent s'engager dans la campagne des municipales. Voilà l'une des raisons. D'autres, d'ailleurs, veulent passer à autre chose après avoir permis d'adopter un budget pour 2026. Paul Barcelone, en coulisses, le casting avance et des poids lourds pourraient bien quitter l'exécutif.
Nos contrats, ce sont des CDD renouvelables, sourit un poids lourd du gouvernement. Celui de Rachida Dati va donc prendre fin. La ministre de la Culture va rendre son Marocain pour faire campagne à plein temps à Paris. Elle prenait le risque de créer un mélange des genres, admet un de ses collègues. Pour lui succéder, les noms de Catherine Pégard, ancienne présidente du château de Versailles, redevenue conseillère à l'Élysée, et de la ministre Aurore Berger circulent. La culture, c'est le domaine réservé, élargi du président aux improches d'Emmanuel Macron. Alors ce mini remaniement ne devrait pas ressembler au grand soir, mais la trop discrète Monique Barbu, ministre de l'écologie, et sur la sellette, Charlotte Parmentier-Lecoq, chargée des personnes handicapées, va elle redevenir députée pour permettre à son suppléant d'être tête de liste au municipal. Reste le cas Gérald Darmanin, attaché au ministère de la Justice, mais qui semble avoir des fourmis dans les jambes en vue de la présidentielle 2027.
Merci beaucoup Paul Barcelone, service politique de France Info. Et puis Tom Félix s'est envolé pour Paris. Le ressortissant français va retrouver son pays après 900 jours de détention en Malaisie où il risquait jusqu'à maintenant la peine de mort, accusé de trafic de drogue. Il a finalement été acquitté mardi dernier par la justice malaisienne. Merci beaucoup d'écouter France Info en ce 5 février, les 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Et à la une de ce jeudi, Russes et Ukrainiens face à face de nouveau pour négocier la fin de la guerre. Des pourparlers sont organisés à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, sous médiation américaine. Faut-il être optimiste? Sans doute pas, au vu des dernières déclarations de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a accordé hier à Kiev une interview exclusive à la télévision française, à la chaîne France 2. Il affirme que Donald Trump est le seul dirigeant que craint Vladimir Poutine, que les Américains doivent accentuer la pression, et il se montre assez critique après des déclarations d'Emmanuel Macron, en tout cas sa volonté affichée de reprendre un dialogue direct avec Vladimir Poutine.
Nous sommes de bons amis, Emmanuel et moi. Bien sûr, il m'a appelé pour me dire qu'il réfléchissait à une reprise du dialogue avec les Russes. Il sait ce que j'en pense. Il connaît mon avis.
C'est quoi votre avis?
L'intérêt de Poutine, c'est d'humilier l'Europe. Il est très important qu'Emmanuel essaye d'aider. C'est important que les dirigeants travaillent pour essayer de ramener la paix entre nos pays. Et ce sera bénéfique pour le monde entier s'il n'y a plus de guerre en Ukraine. Cela profitera à tout le monde. Mais je pense que la pression sur Poutine, elle n'est pas suffisante. Lorsqu'il y a des discussions, il ne cherche qu'à humilier les Européens. Alors, quand on parle de reprendre le dialogue avec Poutine, la question se pose. À quel moment? Non pas quel jour précisément, ça aurait pu être hier, si la pression sur la Russie avait été suffisante. Mais ça n'était pas suffisant. Donc mon avis, c'est qu'il faut dialoguer, mais en mettant des conditions.
Alors pour l'heure, la paix semble encore très loin. La Russie, d'ailleurs, affirme qu'elle compte gagner et imposer ses conditions à l'Ukraine. L'Ukraine, qui en dépit de conditions hivernales très sévères, n'entend pas renoncer à ses revendications et n'entend pas céder face à Moscou. Deux invités désormais sur France Info pour leur analyse, des fins connaisseurs de cette situation générale. Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, et Alain Guilmol, journaliste au journal La Croix, spécialiste de l'Europe de l'Est. Il a aussi été ancien correspondant à Kiev, ils sont réunis tous les deux autour de Julien Langlais. On commence avec le général Pélistrandi.
Cet hiver est le pire que sur le plan météo que l'Ukraine a vécu depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il y a les souffrances morales évoquées, effectivement, quand on est confronté aux enfants, à dire ton père ou ta mère, ils sont morts pour la patrie. Et puis, cette souffrance physique, morale, d'un peuple qui essaye de vivre et qui se bat contre un adversaire qui veut sa destruction. Il n'y a pas d'autre mot. Poutine veut la capitulation. Et quand je dis bien, j'emploie le terme de capitulation, c'est-à-dire la référence, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est ça ce qui est absolument dramatique.
Oui, des conditions de vie aggravées, évidemment, par ces frappes, notamment sur les infrastructures énergétique qui provoque de nombreuses coupures de courant et bien évidemment aussi de chauffage. Général Jean Pélistrandi, Volodymyr Zelensky a évoqué environ 55 000 militaires ukrainiens tués depuis le début de la guerre. Il a aussi évoqué un grand nombre de disparus sans donner de chiffres. C'était d'ailleurs assez ému en répondant à cette question. On a senti un petit peu de retenue, avec aussi quelques silences. Il y en a eu quelques-uns assez marquants, qui disaient peut-être aussi parfois beaucoup de choses. Ça vous paraît sous-estimé ?
Oui, c'est très largement sous-estimé. On estime que les pertes humaines militaires, on parlera après des pertes civiles...
Là, il parlait des militaires.
Oui, oui. Ça doit être de l'ordre, pour moi, de l'ordre de 300 000, voire 400 000. Alors, quand on parle de pertes, il y a les tués, mais il y a les blessés, les disparus, les prisonniers. Si on prend avec les Russes, on est, et ça c'est des chiffres qu'il faut bien comprendre, à plus d'un million d'hommes qui ont été mis hors de combat. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qu'on n'a pas retrouvé, enfin, qui correspondent à des conflits, à la Seconde Guerre mondiale, éventuellement la guerre Iran-Irak, mais c'est des chiffres hallucinants. Et avec le fait que, par exemple, les Russes perdent 1000 hommes par jour. Voilà. Bon. Et du côté ukrainien, ils en perdent un peu moins, mais il y a d'un côté 40 millions d'habitants et de l'autre côté 140. Donc le sacrifice humain pour les Ukrainiens est majeur, et il va peser, ça c'est un élément qui est extrêmement important, c'est que la tranche qui est touchée, ce sont les hommes entre 30 et 50 ans. C'est-à-dire que les conséquences démographiques pour l'Ukraine vont se payer pendant plusieurs décennies au-delà de 2050. Vous voyez, ça aussi, ça pèse sur les épaules du président Zelensky.
Alain Guimol, on n'a pas senti un... beaucoup d'optimisme. Je ne sais pas si c'est le ressenti que vous avez eu à travers cette interview, alors qu'on est entré dans un nouveau cycle de négociations entre Russes, Ukrainiens et Américains. On n'a pas senti, dans les propos de Volodymyr Zelensky, mais bon, peut-être que ça correspond à ce qu'on a évoqué avant, les 4 ans de guerre, l'usure, la fatigue, le poids des responsabilités, mais est-ce que c'est aussi votre sentiment ? On a l'impression que l'Ukraine fait beaucoup de concessions, parce que c'est aussi la réalité, on l'a entendu dans l'interview, et qu'en face, il n'y a rien.
Non, c'est sûr. Enfin, depuis le début de cette guerre, enfin, on a quand même vu Poutine tenir toujours le même cap. Enfin, il est sur un certain nombre de conditions sur lesquelles il n'a pas bougé. Je suis d'accord avec vous pour dire que c'était pas très optimiste. Il n'y a pas de raison d'être optimiste en ce moment. Moi, j'ai trouvé que l'entretien était réaliste et en même temps que Volodymyr Zelensky a témoigné d'une certaine fermeté parce que il n'a pas non plus abdiqué sur les choses qui sont enfin essentielles pour l'Ukraine puisque elle se bat pour son existence et elle n'abdique pas sur son cap pro-européen, son envie d'avoir un modèle démocratique, de vivre de façon indépendante et libre.
Et ils font beaucoup de concessions.
Et ils font
déjà
des concessions. Alors oui, si
geler
on
est... la ligne de front. Enfin, on a entendu, mais geler voilà, la ligne voilà. de front, c'est déjà quand même quelque chose de considérable. Une partie du territoire ukrainien est déjà tombée aux mains des Russes.
Dans les silences et dans les interstices, on peut dire, de cette interview, on a entendu quand même qui dessinait une voie possible pour la paix. Il a dit que, un gel de la ligne de front, mais aussi, il a parlé quand même du fait d'avoir des troupes internationales interposées. Donc, c'est un scénario qui est discuté en ce moment, qui fait partie des scénarios qui sont sur la table à Abu Dhabi.
On a l'impression que les Russes ne veulent pas.
Alors, pour l'instant, les Russes restent sur une exigence qui est de récupérer tout le Donbass, ce qui voudrait dire récupérer toute une zone qui est aux mains des Ukrainiens, qui a été fortifiée, qui constitue en quelque sorte le rempart pour la défense de l'Ukraine et que les Ukrainiens ne veulent pas abandonner sans que les Russes, de leur côté, reculent aussi. C'est-à-dire, l'idée, ça serait que toute cette zone-là soit mise sous contrôle international, que les Russes reculent, les Ukrainiens reculent, et qu'il y ait des forces d'interposition au milieu. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui est un petit peu nouveau, puisque pour l'instant, on n'avait parlé que de forces... une coalition des volontaires de forces européennes qui seraient basées dans le pays, mais loin du front. Et donc là, dans le cas d'un vrai cessez-le-feu, on pourrait imaginer, mais je crois que les Ukrainiens sont très en avance sur ce que nous sommes prêts à faire.
Général Jean Pélistrandi, un mot sur ce que vient de dire Alain Guimol.
Oui, je partage tout à fait cet avis. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les plus hautes autorités française. Et très sincèrement, on pense que la guerre va continuer. Que Vladimir Poutine ne veut pas la moindre concession. Il l'a encore répété, ou en tout cas, Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, par exemple, a dit qu'il fallait rétablir l'autorité de l'Église russe orthodoxe. Nous, ça peut nous paraître très ésotérique, mais c'est bien. Non seulement Poutine veut la capitulation, il veut plus que ce qu'il n'a pas été capable de conquérir, mais il veut aussi le contrôle politique. Sociétal de ce qui resterait de l'Ukraine.
Le journaliste à La Croix, Alain Guimol, aux côtés du général Jérôme Pellistrandi, tous les deux réunis pour parler de la situation en Ukraine et de ses pourparlers entre Ukrainiens et Russes, réunis autour de Julien Langlais sur France Info. Comment donner envie aux jeunes de s'engager pour leur ville ? France Info municipale, dans un instant, nous serons à Laval où on leur donne chaque année une très grosse enveloppe et ce sont eux qui mènent des projets. Rendez-vous dans une minute.
France Info, 5h-6h.
Après un nouveau tour complet de l'actualité avec Maureen Suignard à 6h moins le quart et à la une, cette déclaration de Donald Trump.
Après la mort de deux manifestants à Minneapolis, les tirs qui ont tué Alex Pretty et René Goode n'auraient pas dû avoir lieu, affirme le président américain. Les deux manifestants victimes de tirs de la police fédérale alors qu'ils dénonçaient la politique migratoire de Donald Trump. Le chef d'État américain qui entend mettre la pression sur l'Iran, sur son programme nucléaire. La Maison-Blanche confirme des discussions entre Washington et Téhéran demain. On apprend par ailleurs que la prix Nobel de la paix, la journaliste iranienne Narges Mohammadi, est en grève de la faim depuis 3 jours. La militante est en prison depuis décembre et demande à avoir accès à ses avocats. Étaient-ils des espions chinois près de Bordeaux ? 2 hommes ont été mis en examen hier soir. Les renseignements français les soupçonnent d'avoir transmis des informations à Pékin. Ils avaient installé une grande parabole dans le jardin d'une maison louée. Et puis elle va pouvoir être restaurée à l'identique. Le Louvre donne des nouvelles rassurantes de la couronne de l'impératrice. Eugénie, elle avait été endommagée lors du cambriolage du musée parisien en octobre dernier. Les voleurs l'avaient fait tomber pendant la fuite.
France Info, municipale 2026.
La journée spéciale municipale sur France Info aujourd'hui est consacrée aux jeunes. Focus dans le choix de France Info ce matin sur une initiative à Laval pour convaincre ces jeunes de s'engager et plus les impliquer. Bonjour Caroline Félix.
Bonjour.
Alors la ville de Mayenne confie 200 000 euros, un budget participatif jeune à des 12-25 pour financer des projets qu'ils imaginent et qu'ils portent de A à Z.
Lise, Annabelle et Simon m'emmènent au jardin de Beauregard, un espace naturel qu'ils ont toujours connu en friche. Mais grâce au budget participatif, les 3 ados vont le valoriser. Ils me montrent comment sur un plan.
Non, là, c'est les jeux. Ouais, c'est les jeux.
C'est de l'espace donc, ludique.
Là, ce serait un labyrinthe avec du bois du coup recyclé, normalement du bois mort. Une petite cabane.
Leur partie préférée du projet, une grande tête de gentil monstre muni d'une sorte de toboggan.
Enfin, j'imagine de voir les enfants s'amuser dedans, ça nous touche un peu.
On aurait bien aimé avoir ça quand on était petits, quoi.
Ils disposent de 35 000 euros, ils sont accompagnés par un paysagiste, il y a des réunions avec la mairie régulièrement. Ils ont hâte, mais se rendent compte que le monstre ne sortira pas de terre tout de suite.
Je pense aussi qu'on n'avait pas réalisé à quel point ça prenait du temps et qu'il fallait être patient pour mener à bout un projet.
Un aménagement qu'ils veulent écolo, sans bitume, avec des panneaux pédagogiques sur les abeilles. Mais ce budget participatif finance toutes sortes de projets partout dans Laval. Rendez-vous maintenant à la maison des ados du quartier prioritaire de Saint-Nicolas. Walid et Hakim ont le droit à 55 000 euros. Leur projet, un ensemble, terrain multisport, barbecue, terrain de pétanque. En tout cas, ça c'est ce qu'ils ont présenté en juin. Mais entre-temps, des candidats aux municipales sont passés par là et ils leur ont fait miroiter un five, un terrain de foot à la mode et très cher.
Un grand terrain, assez grand, avec des filets au-dessus qui ferment tout le terrain.
Alors pendant la réunion de travail avec la mairie, les deux jeunes n'ont que ce mot à la bouche. Walid est un peu le porte-parole du quartier.
C'est un five qu'ils veulent.
L'enveloppe 55 000 euros pour la création d'un terrain, d'un five, hein, ça ne sera pas suffisant.
C'est Thierry du service Nature et Ville à Laval qui doit expliquer que c'est trop cher. Une dizaine de jeunes du quartier l'écoutent.
Il y a tous les travaux qui vont en amont de tout
ça. Il y a
les
matériaux.
Les terrassements, les drainages, les clôtures, la pose du gaz. Enfin, voilà, c'est tout un package.
Les jeunes sont frustrés.
Parce que là, ça sert à rien qu'on continue.
Parce que si c'est pour faire quelque chose qui va déplaire aux jeunes et
vos achetants, ça va se faire.
Non.
Pardon, si vraiment vous mettiez du vôtre, vraiment.
Mais ils finissent par proposer plus petit.
Si on part sur un 12 par 24.
Hakim veut même aller acheter du matériel chez Decathlon.
Mais je le pose, le poteau. C'est pas un souci, ça.
Non.
Problème pour un projet de plus de 40 000 euros, il faut passer par des entreprises.
C'est un marché public. Donc c'est pas trop
de vie. Bilan de la discussion, Thierry va peaufiner ses calculs.
Je vais gratter auprès des entreprises, essayer de voir et machin.
Merci infiniment. Okay.
Les jeunes, eux, vont essayer de trouver des enveloppes complémentaires. Mélina Marie en charge de la participation citoyenne à la ville.
Après, c'est ça, c'est le jeu démocratique. C'est bien de s'opposer dans le respect. On a tous des contraintes. Et là, il faut qu'on trouve un compromis.
Malgré des échanges parfois un peu rugueux, Mélina Marie croit en l'utilité d'impliquer les jeunes de A à Z pour s'approprier l'espace. Ça semble marcher dans le quartier populaire de Hilard. L'immense esplanade morose a été refaite à neuf.
Bah, c'est beaucoup mieux.
Diaromba a conscience de l'investissement.
Ils ont mis beaucoup d'argent pour faire tout ça. Et voilà, on en est fiers aujourd'hui. Voilà, s'il nous entend. Je te remercie, Zine.
Et Zine, c'est celui qui a gagné le précédent budget participatif jeune.
Moi, à l'époque où le budget participatif est lancé, j'ai un regard un peu biaisé sur la mairie et j'y crois pas forcément. Donc petit à petit, quand on dépose le projet, qu'on voit qu'on va pouvoir le réaliser, donc moi j'ai une satisfaction personnelle et même les membres du quartier aussi, sur le fait qu'on a pu changer les choses par nous-mêmes et qu'il y a juste à faire le premier pas pour comment dire accéder à ça.
Un kiosque rénové, un espace de musculation, des barbecues, tout ça, ce sont les habitants qui l'ont suggéré.
On a dit qu'ils mettent des barbecues pour que les gens viennent manger pendant l'été et tout et tout.
Alors les jeunes en prennent soin. Diaroumba veille en particulier sur les toilettes.
Parce que c'est cher et pour renouveler ça va être compliqué, donc on essaye de faire très attention, si on les nettoie régulièrement.
Diaroumba qui est très fier que l'esplanade attire désormais des habitants d'autres quartiers. Safa, elle, observe que les jeunes du coin ont désormais plus envie de s'engager.
Pour les jeunes, déjà, ça leur fait bouger et ils prennent des initiatives, etc. Donc, je trouve ça bien. Bah, par exemple, j'ai rejoint une association de Pop & Co. Et en fait, grâce à elle, j'ai fait une formation banlieue climat.
À Laval, 7 projets ont remporté ce budget participatif cette année. Ils devraient tous voir le jour d'ici 2 ans.
Le choix de France Info spécial municipal, signé Caroline Félix ce matin. Le tournoi Destination de rugby, ça commence ce soir pour les Bleus, exceptionnellement un jeudi en raison de la cérémonie d'ouverture demain des JO. Le 15 de France qui reçoit l'Irlande au Stade de France. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour à tous.
Vous serez au commentaire du match ce soir. Les Bleus qui remettent leur titre en jeu et ils pourront compter à nouveau sur leur star Antoine Dupont de retour après près d'un an d'absence.
Oui, 334 jours très exactement que le demi de mêlée et capitaine du Stade Toulousain n'a plus porté le maillot tricolore. Souvenez-vous, la dernière fois, c'était 8 mars 2025 à Dublin, déjà dans le tournoi Destination. Son genou droit avait lâché en plein match.
Oh, alerte. Et j'ai entendu un cri.
Et vous l'avez compris, ironie de l'histoire, c'est donc face à ces mêmes Irlandais qu'Antoine Dupont retrouve les Bleus, mais sans appréhension, nous a-t-il expliqué hier en fin d'après-midi en conférence de presse.
C'est vrai qu'on a retravaillé les images du match de l'année dernière, évidemment ça évoque pas que des bons souvenirs, mais honnêtement c'était un accident de jeu qui aurait pu arriver sur n'importe quel match, ça n'a pas pollué ma préparation, et j'ai juste envie de faire un gros match.
L'envie de jouer et de gagner, et avec lui, c'est un petit truc en plus qui fait son retour en équipe de France, a écouté le sélectionneur Fabien Galthié.
Antoine Dupont, c'est plus, ça c'est sûr. C'est plus dans beaucoup de domaines, plus d'exigences, plus de travail aussi, collectif, l'engagement pour répondre à une forme d'ambition qu'il porte en lui.
Antoine Dupont, monsieur plus donc du 15 de France.
Mais tout de même Fanny, à quel niveau il revient Antoine Dupont? Est-ce que c'est vraiment, après ses 11 mois d'absence, toujours le meilleur joueur du monde? Est-ce qu'on n'attend pas un petit peu trop de lui?
Alors c'est vrai, d'habitude quand un joueur de rugby revient d'une rupture des ligaments du genou, on dit qu'il lui faut un an environ pour retrouver son niveau. Et puis il faut le dire, à force de voir le demi de mêlée de 29 ans durant sa convalescence dans la presse People, on se posait des questions. On a vite été fixé. Dès son retour en fait avec son club de Toulouse fin novembre, il a laissé ses adversaires sur les fesses et ses coéquipiers, Baba comme Cyril Baye.
Le Martien, il a fait du Martien. Pied gauche, pied droit. Mais ouais, Toto, quand tu joues avec un mec comme ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est pas Antoine Dupont pour rien.
Et pour l'avoir suivi sur plusieurs rencontres au stade à cette période-là, c'était vraiment bluffant de le voir jouer. Lui-même confiait d'ailleurs hier avoir été surpris de revenir aussi vite.
Tout est revenu assez rapidement dans l'ordre. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une différence un avant après. J'étais plutôt content parce qu'il y a quelques mois, j'aurais peut-être pas espéré que ça se passe aussi bien, entre guillemets.
Et je peux vous dire qu'il est toujours aussi l'écran par ses adversaires. Le capitaine irlandais Kellyn Doris a utilisé cette belle image pour décrire Dupont hier. C'est comme un petit poisson qu'on essaie d'attraper, mais qui vous file entre les doigts. Et nous, on n'a qu'une hâte, c'est de voir Antoine Dupont comme un poisson dans l'eau ce soir au Stade de France.
Le rugby, toujours plein de poésie. Merci beaucoup à Fanny Lechevestrier. On suivra ce France-Irlande en tournoi destination avec vous à partir de 21h10 sur France Info avec Vincent Pellegrini et notre consultant rugby Guy Akosseberry. Dans la playlist de France Info qui arrive, une contre-soirée trumpiste face au concert du Super Bowl. Ce sera après l'Info Écho. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
L'actualité économique en trois titres. On commence avec les collectivités territoriales qui se veulent prudentes en matière d'embauche.
Oui, moins de la moitié de ces collectivités, 46% exactement, envisagent de recruter cette année, selon le baromètre des ressources humaines H-Horizon. Les auteurs du sondage expliquent que cette prudence intervient dans le contexte de contraintes budgétaires au niveau national et puis avant les élections municipales. Autre facteur, quand ils souhaitent embaucher, les employeurs publics territoriaux rencontrent des difficultés à pourvoir les postes. Les secteurs les plus concernés sont les services techniques, l'administration générale, la petite enfance, l'éducation et la jeunesse.
L'intelligence artificielle dope les résultats de Google.
Oui, Alphabet, la maison mère du géant américain des services technologiques, annonce un bénéfice net de 34,5 milliards de dollars. Ça fait près de 30 milliards d'euros. Entre octobre et décembre 2025, vous avez bien entendu, seulement sur trois mois, en hausse de 30% sur un an. Google en profite pour programmer un quasi-doublement de ses investissements cette année afin de tenir le rythme de la course à la puissance de calcul et aux constructions de centres de données. Investissement prévu entre 175 et 185 milliards de dollars.
Ouais, ces chiffres donnent un petit peu le tournis, Emmanuel.
Et ça inquiète les investisseurs d'ailleurs parce que ça peut créer une bulle à la bourse.
Et l'Allemagne, qui place ses pions dans les pays du Golfe pour de nouveaux partenariats stratégiques.
Oui, le chancelier Friedrich Merz a entamé hier une tournée aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite. Accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise, le dirigeant conservateur allemand va notamment parler énergie face à l'offensive économique de la Chine et des États-Unis de Donald Trump.
Emmanuel, on prend rendez-vous avec vous dans une demi-heure pour votre brief éco.
La Chine, justement, elle interdira dès l'année prochaine la vente de voitures équipées uniquement de poignées de portes dites « affleurantes », c'est-à-dire qui sont intégrées à la carrosserie qui ne se voit pas. Alors c'est beau, mais la raison invoquée, c'est la sécurité. Un petit chamboulement industriel auquel les constructeurs européens commencent à s'adapter.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de la playlist de Maureen Suniar. Et ce matin, Maureen, vous nous emmenez aux United States.
Exactement, parce que le Super Bowl approche. La finale du championnat de foot américain va se dérouler dans la nuit de dimanche à lundi. C'est du sport, bien sûr, mais ce sont aussi des concert suivi par plusieurs centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Dimanche, ce sera Green Day avant le début du match, puis à la mi-temps, place à l'artiste qui vient de remporter le Grammy du meilleur album de l'année. Bad Bunny qui, comme Green Day, s'est exprimé à plusieurs reprises contre la politique de Donald Trump. De quoi agacer très légèrement les MAGA, les supporters oui. du président américain qui ont décidé d'organiser une sorte de contre-soirée. Le All American Halftime Show, c'est le nom donné à l'événement. Comprenez le spectacle de la mi-temps 100% américain qui sera diffusé sur les sites internet de la sphère trumpiste. Kid Rock, que l'on entend, est la tête d'affiche. Le chanteur de country rock est un soutien de Donald Trump de longue date. L'ex-mari de Pamela Anderson promet de superbes chansons pour les gens qui aiment l'Amérique. Et pour cela, il y aura aussi Brantley Gilbert. Ça ne vous dit sûrement rien, William,
rien,
mais Brantley Gilbert est aussi une star de la country aux États-Unis, soutien affiché de la NRA, la plus grande association en faveur du port d'armes aux États-Unis. Il a aussi appelé à boycotter la marque de bière Bud parce qu'elle s'était associée à un militant transgenre. Puis il y aura aussi Gabby Garrett. On ne quitte pas l'ambiance country ce matin. Mm-hmm. Elle se décrit elle-même comme une épouse en couple avec un cow-boy, une femme en relation avec le Christ. Alors, on ne sait pas encore où se déroulera le concert. Peut-être se fera-t-il, qui sait, en présence du président américain, puisque Donald Trump a déjà fait savoir qu'il ne serait pas au stade pour la finale. La Californie, c'est trop loin, dit le président, qui pourtant prend l'avion comme on prend le TGV.
Et peut-être que Green Day, qui se produira à ce Super Bowl, chantera son tube
American
Idiot et que ce sera peut-être un message caché au président Trump.
Il a déjà détourné les paroles, en tout cas. Ils ont déjà détourné les paroles, ce groupe, contre Donald Trump.
Les paroles sont déjà écrites. Merci beaucoup, Maureen Suignard. C'est l'heure de la météo à 5h58.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, ce n'est pas Green Day, mais Grey Day. C'est très gris aujourd'hui, pluie.
Mais oui.
Et neige aussi en montagne.
Et ben voilà, et rebelote de nouveau. De nouvelles pluies soutenues sont attendues. Elles arrivent par la façade atlantique, hein, comme d'habitude. La Gironde est restée en vigilance orange pour les crues. Elle ne devrait pas trop être arrosée. En tout cas, la Gironde, en revanche, la Bretagne le sera de nouveau et copieusement avant la fin de la matinée. Les pluies progressent vers l'est, hein, comme d'habitude, et puis vers la Méditerranée aussi. Alors le temps va se gâter, mais franchement, en deuxième partie de journée et en soirée pour la région PACA, avec pas mal de neige sur les Alpes ce matin et cet après-midi, ça tombera également sur les Pyrénées, un peu de poudreuse. Voilà, la limite pluie-neige est à 1500-1600 mètres d'altitude à peu près. La mer est également agitée, alors plus prudence, hein, sur le littoral. Si vous allez vous balader, quelle chance, allez se balader sur le littoral. Allez, 6 degrés pour les températures à Strasbourg, 13 à Paris, à La Rochelle, à Bordeaux, à Toulouse, comme à Lyon, 15 à Marseille et Toulon, et 17, le plus doux, ça sera de nouveau pour la Côte Basque à Biarritz.
Eh ben c'est râpé pour votre sortie, j'ai l'impression, sortie natation, Jérôme Chapuis, c'est le début de votre 6-9. Bonjour.
Bonjour William, vous avez une heure pour aller vous balader.